dans les détails. Alors, qu'est-ce qui est prévu exactement de ce point de vue pour les régions nord du Mali?
La grosse, grosse question. Vous vous rappelez, Timothée, qu'à un moment donné, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, avait proclamé une forme d'indépendance et qui est revenu sur cette indépendance, après qui a réclamé l'autonomie, et que maintenant on parle de régionalisation, c'est-à-dire donner une plus grande autonomie à l'ensemble des régions du Mali. C'est-à-dire que, par exemple, le gouverneur de Gao sera élu, donc ce sont les populations qui vont choisir. Ça, c'est une forme de la décentralisation qui va toucher aussi les autres régions du Mali. Il faut mettre en place pour les opérations de police des unités locales. Et donc ce sera un deuxième problème parce que les rebelles disent que c'est eux qui choisissent qui va faire partie de cette force locale pour prendre en charge les questions de sécurité. Donc ça, c'est relève de la décentralisation. Donc les questions humanitaires, donc voilà. Et enfin, je pense que c'est le pouvoir qui sera réservé en fait, à ces collectivités locales, c'est là-bas où il y aura aussi beaucoup de discussions. En sens que ceux qui prétendaient à l'indépendance ou à l'autonomie vont vouloir aussi avoir beaucoup plus de liberté, ce que Bamako ne va pas accepter, parce que Bamako tient à l'unicité d'un Mali, comme on dit, un et indivisible. Donc, je pense que le gros des difficultés, Timothée, est vraiment à venir. Mais tout ce qui a changé de donne, c'est que tout le monde accepte maintenant de venir s'asseoir pour en discuter, non pas avec des armes, mais dialoguer au sein du comité de suivi. Et chaque groupe est tenu de venir présenter des propositions qui seront discutées et qu'à l'issue desquelles il y aura des accords par consensus.
Alors, nous avons quelques réactions sur Facebook. Il y a celle de Genebou Mariko qui dit ceci: signer l'accord sans désarmer les rebelles ou terroristes est la plus grande erreur du gouvernement malien. Yaya Touré du Mali également signale que la signature de l'accord est un grand pas vers la paix, mais quand on constate que les pères fondateurs du MNLA étaient absents dans la cérémonie du 20 juin passé, on ne peut dire que les armes de haine sont déposées. Et puis Diallo Tierno Oumar de Guinée donc signale que en tant que jeune soucié de la paix et l'unité entre les filles de mon Afrique, je suis très heureux. Je souhaite encore que l'accord soit respecté par tous les signataires. Alors, Timothée, pour revenir à vous, hein, c'est pas le premier accord qu'on signe au Mali. Est-ce qu'on a quand même quelques indices qui donnent un peu d'espoir que cet accord-là finalement va être respecté? Ou est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Pour le moment, on n'a que l'espoir. On ne peut qu'espérer que les différentes parties respectent leurs engagements. Sinon, on n'a pas d'autres éléments qui vont nous permettre de dire aujourd'hui que cet accord sera appliqué à 100%. Et Idriss Fall, l'autre grande difficulté, c'est que...
Avant de revenir à Idriss Fall rapidement, on nous signale qu'on a un auditeur qui est en ligne, Gila Traoré. Gila Traoré, oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute sur la question de l'accord de paix qui a été signé ce samedi au Mali.
Oui, bon, je vois avec l'accord de paix qui a été signé ce samedi, ça nous donne beaucoup d'espoir. Surtout avec les rebelles, actuellement, ils ont la pression de la communauté internationale. Je crois que cette fois-ci, tout le monde est venu sur la table. Mais après, je vois aussi aujourd'hui que les MNLA de l'Europe ont rejeté l'accord de paix qui a été signé le samedi dernier à Bamako. Bon, moi quand même, j'ai l'espoir que cette fois-ci, Inch'Allah, cet accord-là va aboutir.
Oui, Timothée, merci bien.
Alors oui, et donc l'auditeur souligne un point très important, à savoir le poids de la communauté internationale dans ces tractations intermaliennes. Il reviendra à la communauté internationale de peser de tout son poids sur les différentes parties pour que chacun respecte ses engagements. Et Idriss, je le disais, l'autre difficulté, c'est que le nord du Mali est une région qui connaît beaucoup de difficultés et où l'aide du gouvernement central sera cruciale pour aider les populations. Alors, comment va se jouer cette interaction entre le gouvernement de Bamako et les conseils, les structures régionales qui seront chargées de gérer la vie dans cette région? Tout va se jouer à ce niveau-là.
Timothée, je suis entièrement d'accord avec vous, d'autant que tout le monde sait qu'après 3 ans de crise, le Mali est un pays exsangu où vraiment l'argent ne coule pas, comme on dit. S'il faut développer le nord du Mali, comme le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a promis le jour de la signature, une route qui partira de Bamako à Kidal, ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je sais pertinemment que le Mali n'a pas les moyens pour faire cela. Il a promis même d'aller passer des vacances à Abbé Barane, mais tout ça, tout le monde sait que donc pour la mise en œuvre, pour apporter l'argent pour cela, il faudra compter sur la communauté internationale qui a tenu plusieurs réunions déjà de « on va amener l'argent au Mali, on va aider au développement ». Mais pour le moment, je pense que l'essentiel des promesses qui ont été faites au niveau de conférences qui sont tenues en Europe, je crois que l'argent, une bonne partie de l'argent, n'est pas encore rentré dans les fonds du Mali. Donc ça, c'est un premier défi qui se posera au gouvernement du Mali, en sens que les promesses de développement qui ont été faites, trouver l'argent pour que ça puisse se réaliser. Parce qu'en fin de compte, c'est une question de pauvreté. Le nord du Mali est absolument délaissé, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien dans le nord du Mali. Et je pense que la pauvreté a été un élément essentiel qui a alimenté toutes les rébellions qui sont passées dans ce pays depuis les années 60, en tout cas. Et je crois que c'est à ce niveau-là où la communauté internationale va poser tout son poids, c'est-à-dire apporter l'argent pour régler les problèmes. Parce qu'à défaut, je crois qu'on verra encore les problèmes. Il n'y aura pas de confiance entre les communautés Touareg, Peul, Songhai, qui habitent dans le nord de la région. Et donc c'est là-bas où aussi je pense qu'on attend les États-Unis, la France et Bruxelles, tous les partenaires qui s'appellent les amis du Mali. Parce qu'à défaut de cela, on aura encore de nouvelles rébellions qui vont ressurgir dans ce pays, comme ça a été le cas depuis plus de 50 ans, Timothée.
Voilà, Idrissa, vous restez avec nous. Nous avons Yaya Touré hein, qui appelle du Mali, peut-être du Nord Mali. Bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Voilà, vous êtes où au Mali exactement?
Je suis à Bamako actuellement.
Ah, ok. Allez-y.
Ok, j'aimerais dire ça. Signer un accord est un grand pas vers la paix. Mais ce qui va amener la paix, c'est les liens qui sont brisés. De demander ceux qui sont victimes dans la guerre. C'est ça là, le grand problème. Puisque depuis 2013, nous sommes en train de voir les mêmes problèmes. Et l'État a signé des accords. Depuis 1963, le Modibo Keïta, l'État de Modibo Keïta, nous avons signé des accords, ensuite les pactes nationaux, jusqu'en 2006. Mais jusqu'à présent, nous assistons à des gens qui n'ont jamais accepté et respecté leurs engagements. Ils ne sont pas de bonne foi. Certes, nous avons signé aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que nous avons sur le terrain? Nous avons des combattants qui sont sur le terrain, qui ont des armes manipulables facilement, qui agressent les gens. Mais qui n'obéissent pas quand même au chef hiérarchique, ceux qui sont encore considèrent qu'ils sont les têtes, ils ont des milices qui ne les respectent même pas, ils viennent ici, mais on a signé l'accord, mais il y a des combattants qui sont là-bas, qui ont les armes, qui sont dans les grottes, qui sont dans les bosquets, qui sont dans les brousses comme ça, qui attaquent sur les routes, qui attaquent dans les maisons, qui tuent aussi. Mais nous avons signé l'accord ensuite. Nous avons encore l'intervention de Moussa Al-Sarib qui est jusqu'en Europe, qui téléphone, qui dit vraiment que c'est un accord qui a été imposé. Et donc, on n'a pas besoin d'imposer une paix à quelqu'un, ça a de la signature. Et nous avons aussi le porte-parole de la CEMA aussi, à son nom, Mohamed Djeri Mega, qui a même dit la chose. Il dit aussi que nous avons signé la paix, mais il faut la paix, ce n'est pas un petit mot qui ne peut pas venir aussi de la signature d'un papier. Là, nous avons signé quand même le papier. Mais il réformera la compétence du régime en place, de s'assumer, de mettre vraiment la pression, de concourir vraiment, de chasser les partenaires, les amis, les vieux amis du Mali.
Voilà, monsieur Touré, merci infiniment pour votre point de vue. Hein. Timothée, vous l'avez entendu, l'accord est signé, c'est vrai, mais il va falloir faire beaucoup sur le terrain, notamment en termes de réconciliation. mais aussi sur les autres questions, notamment de démilitarisation du Nord.
Et tout à fait, Bagassi. Et ça, c'est un classique dans les conflits qu'on a vu ailleurs en Afrique. Les chefs politiques et militaires signent les accords, mais sur le terrain, les combattants armés, et, dont le pouvoir tient à l'arme qu'ils ont à main, s'entendent dire qu'il faut déposer les armes, alors qu'ils voient que c'est leur arme qui, finalement, est leur gagne-pain. Et donc, dans ces cas, c'est toujours difficile de persuader les combattants de déposer les armes et de faire la paix. Et on l'a vu dans d'autres conflits aussi.
Alors, Idriss, comment...
Timothée, je suis entièrement d'accord avec vous parce que, en fait, ça devient en fait un marché de dupes. C'est-à-dire que les chefs rebelles viennent signer. Et quand ils signent plus tard, c'est eux qui deviennent les ministres. C'est eux à qui on donne les milliards. Ça se passe en République démocratique du Congo, où certains signes, on les voit, demain ils sont à des postes élevés au niveau du gouvernement, et ceux qui étaient en dessous, ils vont se dire aussi, pourquoi pas moi? Et ils reprennent des armes, c'est-à-dire que ça devient un cycle où réellement on ne s'en sort plus. C'est-à-dire que celui qui prend les armes est à la limite, à la cause de, ou bien grâce à un accord de paix, récompensé à des postes, et que ceux qui sont en dessous les voient graviter les échelons, et eux-mêmes, parce qu'ils veulent leur part du gâteau, sont obligés aussi de reprendre des armes. C'est généralement comme ça, mais le gros perdant dans tout ça, que ce soit dans l'est du Congo, que ce soit au Mali ici, ce sont les populations. Les enfants qui ne vont pas à l'école, les familles qui sont obligées de fuir leur maison pour aller se réfugier au Niger, en Mauritanie, en Algérie et au Burkina Faso. Donc ce sont les populations qui payent. Donc il faudrait, je crois que tous ces mouvements qui se disent rebelles au nom des populations arrivent à savoir que même si tu veux devenir ministre, parce que leur souci parfois, on se demande est-ce que c'est pour développer ou protéger ces populations du Nord ou bien ces populations de l'Est du Congo. Leur souci, la plupart du temps, c'est après on signe un accord de paix, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, où les rebelles, ils déposent leur casque, ils portent des costumes et cravates, ils viennent, ils s'assoient et leur ennemi devient ministre. C'est une manière d'encourager même les rébellions dans les manières de faire d'ici. Donc, Timothée, c'était pour dire que je suis entièrement d'accord avec vous.
Alors, est-ce que, Idriss, cette question, parce qu'on a souvent parlé de connexion entre certains de ces mouvements rebelles et les groupes terroristes qui sont qui sévissent dans le nord du Mali. Est-ce qu'on a parlé, évoqué la question de la gestion de ces liens-là? Comment est-ce qu'on pourra faire la part des choses?
Ok, Timothée, Bagassi, je vous dis une seule chose. Depuis que le Mali est Mali, toutes les rébellions qui ont eu lieu au Mali depuis les années 90 ont été dirigées par un certain Iyad Agali. Iyad Agali a été placé par le département d'État sur la liste des terroristes du monde. Iyad Agali, il est respecté à l'intérieur de l'ethnie des Forras dans les Touaregs et il est quelque part. Il est quelque part. Personne ne sait où il est. Moi, personnellement, je doute qu'on puisse avoir une paix au Mali si un certain Iyad Agali n'est pas arrêté ou détruit. Ça, c'est absolument certain. Et que Mokhtar Belmokhtar, dont certains ont annoncé il y a quelques jours qu'il était tué, il était présent au Mali. Ce qu'on appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique, il était présent, il avait pignon sur rue au Mali. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest avait pris garde et contrôlé des pans entiers de ce pays. Où est-ce qu'ils sont? La France est intervenue pour peut-être les faire disperser. Mais vous avez vu l'attaque récente à Micheni, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu parler de l'enlèvement de ce Roumain au Burkina Faso qui montre d'une certaine manière que les djihadistes, comme on les dit, ils se sont éparpillés et ils sont là. Et même avec des preuves palpables, ils ont même mené des attaques comme l'attaque en mars dernier contre le restaurant La Tarasse, ici même dans Bamako. Donc il y a une certaine connivence. Il y a une certaine connivence, elle est évidente. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est du domaine de l'information, c'est du domaine du renseignement. Bon, Barkhane est là, bon, les Américains fournissent des infos, mais je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour se débarrasser de la question du terrorisme ici, au Mali et dans l'ensemble du Sahel.
Voilà. Alors, vous êtes à l'écoute de VOA Africaine. Le thème de l'émission cet après-midi, c'est la signature de l'accord de paix samedi dernier à Bamako entre le gouvernement et les mouvements rebelles du Nord. Nous allons prendre un de nos auditeurs qui est en ligne d'Abidjan, Kassoum Konaté. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on vous écoute.
Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Oui, on vous écoute.
Oui, bon, moi, je pense que l'accord qui a été signé, vraiment, il faut que ça soit la dernière étape quoi, durant pendant les négociations. Parce que il a eu ces cas aussi en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a connu les crises ici. Ben, il a eu des signatures, des accords. Et puis, bon, après, nous avons replongé dans la même crise. Et moi, je me dis que le cas du Mali, est-ce que les groupes armés qui sont au nord ne sont pas en collaboration avec les djihadistes? Parce qu'ils peuvent signer les accords aujourd'hui avec l'État malien. Mais et si ils ont des collaborations avec les djihadistes là, cela va toujours entraver une nouvelle crise. Voilà, on va toujours retourner à la même chose. Donc il faut que ça soit la dernière fois.
D'accord.
Que la signature soit accordée.
Voilà, merci infiniment et merci et bonne soirée à Abidjan. Alors, Timothée, on a vu que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier à Bamako et à Gao. Est-ce qu'il faut remettre à la communauté internationale la défense de cet accord sur le terrain?
Il est clair que, comme on l'a dit, le Nord-Mali, c'est un vaste territoire d'accès assez difficile. Donc, il est clair que le Mali, le gouvernement malien à lui seul, ne pourra pas contrôler toute cette étendue. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Mali a demandé à la communauté internationale de l'aider à établir son autorité, de l'aider à assurer la sécurité dans cette zone du pays. Et je pense que la communauté internationale n'a pas d'autre choix que d'aider le Mali à surveiller ce territoire.
Alors, Idrissa, est-ce que avec cet accord, les forces internationales, je parle de l'ONU ou bien de la France, peuvent maintenant intervenir en cas de conflit armé sur le terrain?
Non, je pense que c'est ça qu'ils font depuis l'opération Serval et jusqu'à maintenant. Et je crois que le Tchad a payé le plus lourd tribut dans cette guerre. On ne le dit pas assez. C'est-à-dire que ce sont les Tchadiens qui ont été le plus tués dans cette guerre, qui contre les terroristes. La communauté internationale ne peut pas ne pas être présente au Mali. C'est trop dangereux. Parce que le Mali, c'est la porte d'à côté de l'Algérie qui fait face avec l'Europe. Donc je crois que la France est obligée, forcée d'être présente sur le terrain. Parce que l'État malien, qui a été un État assez faible, fragile, parce que s'il était fort, les djihadistes n'auraient pas pris des pans entiers de ce territoire, est en train de se reconstruire. Donc je crois que toute cette force régionale qu'on appelle Barkhane, mais l'ONU, même la MINUSMA, qui n'est pas forcément entraînée à faire des opérations contre des djihadistes, mais toute cette force internationale est obligée d'être présente au Mali, au moins de serait-ce pour garantir quelquefois des cessez-le-feu pour les Nations Unies, ou bien pour aller chercher les djihadistes dans les montagnes des Kifouras là-bas et essayer de les détruire. Et pas pour rien qu'à Kidal, là-bas, il y a plein de soldats tchadiens et c'est eux qui ont été les premiers à avoir payé le prix de cette guerre au Mali. Mais Ibrahim Boubacar Keïta a chaudement remercié Idrissi pour sa participation dans cette guerre.
D'accord. Merci infiniment. Merci Idriss Fall, qui est notre envoyé spécial à Bamako, qui nous a donné toutes sortes d'explications ce soir. Et merci à vous, Timothée Dounangmaï.
Merci, Bagassi.
Voilà, c'est tout donc pour cette émission. La production était assurée par Michel Joseph et Amkoulel. Et au micro, c'était Bagassi Koura. Passez une excellente soirée au micro de la Voix de l'Amérique.